J'adore les belles tables. L'œil mange aussi. Et j'aime particulièrement l'esthétique d'un repas bien présenté. Pour moi, une table bien dressée est une véritable œuvre d'art. Les couleurs et la disposition des plats et des couverts jouent un rôle essentiel dans l'expérience culinaire. Chaque détail compte, des assiettes au verre, en passant par les serviettes et les décorations. Une belle table peut transformer un simple repas en un moment mémorable et festif. J'ai utilisé ces trois chandeliers pendant les repas de Noël, pour les retrouvailles en famille. Ils ne servent pas seulement à éclairer, mais aussi à créer une ambiance chaleureuse et accueillante. Je t'offre ces trois magnifiques chandeliers qui vont trouver leur place sur ta table.
Un jour, ma tante m'a donné une sous-tasse et une petite assiette sans la tasse. Dites, je l'ai cassée, mais si jamais vous trouvez la même, ce serait formidable. J'ai cherché longtemps, mais la tasse, je ne l'ai jamais trouvée. Cette histoire remonte aux années 70. À l'époque, je pensais que ce service était anglais. L'élégance du décor me l'avait fait croire. Et puis, en creusant, j'ai découvert qu'il venait de Russie, Saint-Pétersbourg, 1744. Alors forcément, j'ai compris pourquoi mes recherches n'avaient jamais rien donné. La tasse que je cherchais en Chine dormait sans doute depuis toujours au bord de la Neva. Quant à Edith, dite, sa propriétaire, elle ne peut plus donner son avis aujourd'hui. Mais je suis sûre d'une chose. Elle serait heureuse de savoir que quelqu'un s'intéresse encore à son histoire, à ce petit fragment de vie qu'elle a transmis, presque
malgré
elle.
Ce légumier faisait partie de mon service de mariage. J'en avais trois au total. Nous nous sommes mariés le 21 mai 1965 et c'est moi qui avais choisi ce service pour la liste de mariage. De la faïence anglaise Wakewood, très élégante, très bourgeoise. Alexandre, mon mari, s'en fichait complètement. Ce genre de détails ne l'intéressait pas du tout. Finalement, on nous a offert le service complet, mais en réalité, je l'ai très peu utilisé. Mes amis se moquaient gentiment à chaque fois que je sortais cette vaisselle qu'ils trouvaient bien trop précieuse. Quant à moi, je n'assumais pas vraiment de la posséder. Elle restait enfermée dans l'armoire presque cachée. Je préférais servir dans les casseroles. C'était plus simple, plus à mon image. Je n'ai jamais été très à l'aise avec les réceptions. En 1968, sortir un service comme celui-là, c'était presque indécent. On aurait pu me prendre pour une fille de riche. Et c'était surtout l'image que je voulais absolument.
Germaine était notre voisine, une institutrice d'une élégance d'autrefois, qu'on appelait affectueusement la marquise. Toujours impeccable, elle soignait sa mise, coiffure parfaite, rehaussée d'un reflet violet, ongles vernis, gestes mesurés. On la voyait souvent dans le jardin, sous le grand frêne, en train d'écouter des haricots, en écoutant la Valkyrie de Wagner, son compositeur préféré. La cuisine n'était pas vraiment son domaine, elle formait un couple attachant, avec René, son mari, qui servait souvent de cobaye. Avant d'inviter des amis, elle testait toujours ses plats sur lui, un rituel. Je garde un souvenir très ému de son alose au vin rouge, qu'elle servait dans une soupière. Un plat modeste, de pêcheur, bon marché et plein d'arêtes. Pourtant, avec elle, même ce plat avait de la classe. Elle déposait la soupière au centre de la table, sur un petit réchaud en argent. Tout était dans le soin du geste, dans l'art de recevoir.
C'est une tasse allemande, je suis allemand. Je vis en Espagne depuis 38 ans, du service à café de ma mère Clara, originaire d'Ingen, en Allemagne. Il ne me reste plus que cette tasse. Cela fait 18 ans qu'elle est partie. Maintenant, cette tasse continue de vivre, voyageant à travers
cette
ton banquet.
Cette petite tasse vient de la maison de mes grands-parents à Versailles. C'était une maison bourgeoise, dans laquelle j'ai grandi avec mes grands-parents, mes cousins et mes parents. Je me souviens que lorsqu'on prenait le café, enfin, eux buvaient du café, moi j'étais encore enfant, ils sortaient leur toute petite tasse, dorée, ouverte, de style empire, un peu vieillot. Nous avons été expulsés de cette maison, et cette tasse est l'un des souvenirs que j'ai conservés de cette demeure coquette. Je suis partie m'installer dans le Périgord, dans une maison qui n'était pas la mienne. Progressivement, j'ai rempli cette maison d'un tas d'objets qui venaient de ma vie passée, des objets que pourtant je n'utilisais presque pas, dont cette petite tasse. Trop petite pour notre machine à café, elle servait davantage à stocker des graines, des épingles à nourrice. Elle n'avait de valeur que pour moi. Elle me permettait de me sentir un peu plus à ma place dans cette maison étrangère. Aujourd'hui, j'ai une maison dans laquelle je me sens chez moi. Alors je n'ai plus besoin de cette tasse, ni de tous ces objets dont je m'entourais. Et les souvenirs de mes grands-parents et de ma famille à Versailles ne disparaîtront pas parce que je me sépare de cette tasse.
C'est la saucière de Hélène, la grand-mère paternelle de Bernard. Un objet simple, mais chargé d'une présence qui ne nous a jamais quittés. Chaque été, lorsque nous venions passer une semaine à Taurine, elle nous accueillait un peu comme un signe familier, posé là, témoin silencieux de nos retrouvailles. Nous venions d'abord rendre visite à ma grand-mère, puis à mes parents, qui vivaient ici 6 mois par an. Ces séjours rythmaient nos étés, et le village était devenu une sorte de point fixe dans nos vies. Depuis 2019, nous avons fini par faire comme eux. Nous restons désormais presque toute l'année à Taurine. L'an dernier, nous y avons même vécu, sans presque jamais nous en éloigner. Comme si le lieu incroyable, doucement, avait refermé ses bras autour de nous. Nous y sommes si bien que nous avons décidé de franchir un pas de plus. Acheter une maison plus grande, juste derrière le château de Taurine. Une façon peut-être de poursuivre l'histoire commencée bien avant nous et d'y inscrire, à notre tour, une part
de l'année. Ce pot à sucre était toujours posé sur la table de la cuisine, juste à côté du bol de café au lait de mon père. Le matin, c'était lui qui ouvrait le couvercle en plastique avec ce petit cliquetis reconnaissable et versait une cuillère rase dans sa tasse. Ma mère, elle, trouvait qu'il en mettait toujours trop. Il reste l'un des témoins les plus fidèles de nos petits déjeuners familiaux, de ces instants banals mais si précieux où l'on partageait plus que du sucre. Quand nous avons vidé la maison, beaucoup d'objets ont trouvé acquéreur, mais ce pot est resté, comme s'il n'appartenait à personne d'autre qu'à
nous. Tu as apporté ma tasse et ma sous-tasse, te dit Nat. Tu vois, c'est pour que tu les embousses, parce que moi, j'aime bien quand tu fais des trucs avec la bousse. Ça fait comme de la terre qui raconte des histoires. Ma tasse, elle voulait pas rester une tasse de dinette toute simple. Elle m'a dit qu'elle voulait devenir une tasse forte, comme celle que tu fais, qui sente un peu la montagne et les animaux. Alors je lui dis, d'accord, je te donne à elle, elle saura te transformer. Quand on bouse, on voit mieux les traces, les petits chemins, des dents, comme s'il y avait des secrets cachés. Moi, j'aime bien les secrets dans la terre. Alors voilà, je te la donne. Tu peux la changer, mais te le casse pas, hein? Et après, tu me la montres, parce que je veux voir comment elle sera devenue. Ma tasse.
Cette petite
courageuse.
Carafe en verre décorée de motifs bleus appartenait à ma grand-mère maternelle qu'on appelait Mamie Bordeaux. Elle était veuve de guerre et habitait au cœur de Bordeaux dans un grand appartement. L'immeuble se trouvait aux 3 rues Ravez. C'était au 3e étage, desservi par un ascenseur à l'ancienne. Cette grand-mère n'était pas douce et affectueuse comme mon autre grand-mère paternelle qui m'a élevée jusqu'à mes 6 ans. Mais elle était là au quotidien car nous habitions à 5 dans ce quartier Saint-Paul. Elle jouait au bridge régulièrement avec ses amies veuves de guerre comme elle. Les jours où elle recevait chez elle pour le bridge, elle déhoussait les meubles de ses salons, faisait du thé et des petits gâteaux. On y avait droit, nous ses 4 petites filles, pour le goûter, après avoir poliment salué ces dames. Ma grand-mère était particulièrement élégante ces jours-là. Elle gardait son chapeau, elle mettait son collier de perles et du rouge à lèvres. Je lui mettais du vernis rouge sur les ongles et elle me récompensait par une pièce ou un petit billet. Ça se passait devant sa coiffeuse dans sa chambre. Sur cette coiffeuse se trouvait un miroir en argent, ainsi qu'une brosse et un peigne assorti, une crème Guerlain, secret de bonne femme, et cette carafe destinée à contenir de l'eau de toilette. Ou bien était-elle sur cette table de nuit remplie d'eau avec un gobelet du même décor? Mes souvenirs sont un peu flous, mais cette petite carafe faisait bien partie de l'environnement raffiné de
cette assiette au dessin bleu appartenait à notre mère, Paquita, que nous avons perdue en 2006. Elle s'en servait pour présenter les plats, toujours avec souhait, toujours avec cœur. Je voulais te l'offrir pour qu'elle fasse désormais partie de ton banquet. Pour ma sœur, Paloma, ce n'était pas évident, mais elle a finalement accepté par s'en séparer. Merci Barbara. Nous sommes heureuses que cette assiette puisse continuer son chemin à travers ton.
Pendant 20 ans, c'était mon assiette de petit déjeuner. Je suis autiste. En te la donnant, j'espère enfin quitter l'enfance.
Ce chandelier est un héritage familial que j'ai envie de partager avec toi. Il appartenait à la famille Delay, la famille de mon mari. Le père était pasteur, et dans les églises protestantes, les chandeliers occupent toujours une place essentielle. Ce sont des présences fortes, presque fondatrices. Celui-ci, je l'ai toujours vu chez mes beaux-parents, posé comme un repère silencieux. Un jour, ma belle-mère me l'a offert. Je l'ai longtemps utilisé, mais depuis le départ d'Alexandre, je ne l'ai plus rallumé. L'étain est un métal souple, facile à travailler. Regarde la belle frise de grappes de raisin qui court le long de son pied. Elle dit quelque chose du soin et de la main qui l'ont façonné. Il faut éviter les sources trop chaudes, car l'étain se déforme. Je ne connais pas son âge exact. Peut-être date-t-il du XIXe siècle. Les parents d'Alexandre étaient nés en 1908, alors ils venaient peut-être déjà de leurs propres parents. Dans ton projet, c'est ce qui compte, l'histoire de l'objet. Un objet sans histoire n'a pas de valeur. Celui-ci en porte une, c'est pour cela que je te le donne. Je suis très fière qu'il entre ainsi dans ton banquet. J'aime l'idée que ce chandelier ne soit pas droit, il ressemble aux femmes. Elles aussi sont penchées, vers les enfants, vers les autres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Charles-Ferdinand Ramuse. Leur vie les incline, tout simplement. Et c'est cette inclinaison-là que je retrouve dans ce chandelier.
Ma belle-mère tenait une épicerie comme on n'en voit plus, juste derrière le château de Taurine. Une petite boutique où l'on trouvait de tout pour vivre. De quoi manger, s'équiper, s'habiller, et même se dépanner d'un objet inattendu. Les gens l'aimaient beaucoup. On la tenait pour une femme de confiance. Elle a fermé son commerce au moment même où elle entreprenait de changer d'inscription au registre du commerce pour que la boutique porte enfin son nom à elle, et non plus celui de son père. C'était en 1981, une date qui marque autant une fin qu'un passage de témoin qui n'aura finalement pas eu lieu. Dans ce magasin, on trouvait notamment des cafetières et tout le service complet, assiettes, tasses, pièces pour le café. De quoi dresser une table entière. On venait acheter du café, mais on repartait aussi avec tout ce qui pouvait l'accompagner. Ce qui allait dans l'assiette, comme ce qui allait autour. Et puis, il y avait les denrées en vrac, alignées dans de grands contenants. Pois, prunes séchées, poivres. Les clients arrivaient avec leurs sachets ou leurs bocaux, qu'elle remplissait au plus juste, avec cette précision attentive qui était sa manière d'être.
On parle de ces objets comme on raconte une légende. Ils auraient été importés de Grande-Bretagne dans les années 1970 jusque dans le début des années 1980. On les reconnaissait à leur emblème, un épi de blé gravé dans le métal, promesse d'une solidité à toute épreuve, annoncée comme résistante à la rouille pendant 50 ans. Mais très vite, ces cuillères ont dépassé leur simple fonction. Elles sont entrées dans les cuisines, les poches, les ateliers et surtout dans les récits. On disait qu'elles servaient à tout, ouvrir des portes récalcitrantes, décapsuler des bouteilles de soda, réparer un vélo au bord de la route, démarrer une voiture capricieuse. Certains racontaient même qu'elles permettaient d'extraire la moelle des os ou qu'elles pouvaient faire office d'antenne de télévision. Vraies ou fausses, ces histoires se sont accumulées, transmises de bouche à oreille, jusqu'à transformer l'objet en mythe. Ce n'était plus seulement une cuillère, c'était un outil universel, un symbole d'ingéniosité, de débrouille et de confiance accordée à la matière.
Ma tasse de petit déjeuner, mon premier café, le moment où j'ai remercié la vie pour une nouvelle journée, et l'assiette de petit déjeuner de ma mère, qui n'est plus là. Ces objets de quotidien portaient nos gestes, ne silence, ne matin. Cette tasse est restée dans notre maison pendant 10 ans. Elle n'est pas très ancienne, mais elle a compté. Elle est ébréchée, fragile, mais encore pleine de présence. Nous aimerions qu'elle trouve une seconde vie à travers ton œuvre, à ta manière, avec ton regard, ton geste. Je suis heureuse qu'il puisse ainsi transcender.
Au départ, c'était une simple lanterne Ikea, achetée pour les dîners d'été, puis oubliée dans un coin où elle a pris la poussière. Dans ton banquet, la bouse, les mousses et les lichens s'y sont accrochés. L'objet fabriqué en série s'est transformé en petite architecture vivante, moitié lanterne, moitié abri.
Je te donne une assiette à dessert d'un service que je trouvais banal lorsque j'étais enfant. Notre maman le sortait toujours à la fin d'un repas lorsque nous avions des invités. Le beau service en porcelaine servait seulement pour les grandes fêtes de famille. Ce service compte 12 assiettes, représentant chaque mois de l'année. Mes deux sœurs et moi, nous disputions toujours cette assiette du mois d'avril, car toutes les trois étions nées en avril. Donc, notre maman avait décidé de la donner à tour de rôle lors des repas successifs. Nous nous sommes bien accommodés de cette règle. Pour moi, cette assiette représente aujourd'hui le bonheur simple de partager. Partager le dessert, cette douceur sucrée dont nous, enfants, raffolions, nous étions des gourmandes. Cette assiette me fait penser à nos petites chamailleries d'enfants qui s'échappaient très vite. Elle représente aussi la compréhension, la bienveillance, la douceur de notre maman, que j'aimais tant et qui est partie très jeune. Barbara, je voulais aussi te dire un grand merci pour tout ce que tu as apporté à notre village, commune, territoire, on l'appelle comme on veut. J'ai adoré ton banquet plein d'humilité, d'humanité qui fait chaud au cœur, qui magnifie notre
J'ai hérité de 2 assiettes murales avec des scènes paysannes inspirées de Jean-François Millet. Ma mère vient de décéder et en vidant sa maison, je les ai retrouvées dans un placard. Je me suis dit que le sujet paysan irait parfaitement avec
cette tasse a été retrouvée parmi les objets d'un déménagement dans un appartement en location, sans que l'on connaisse son origine ni son propriétaire.
Lorsque je suis arrivée à Centrès, j'avais 27 ans et Mado sans doute près de 80 ans. J'ai toujours aimé aller voir Mado qui me parlait de son enfance au village et de sa vie plus tard à Paris avec son mari. Elle travaillait dans un bar. C'était une femme joviale. Quand je l'ai connue, elle était déjà veuve. Je l'accompagnais parfois chez le médecin ou faire des courses. Un jour, elle m'a offert cet objet insolite. C'est un ustensile en argent pour préparer le café sur une seule tasse. Pour moi, c'est un objet précieux, mais à la maison, il n'a de valeur que pour moi. Il me rappelle les bons moments passés avec Mado. Aujourd'hui, Barbara, je te l'offre. Peut-être y trouveras-tu une petite place sur la table de Germaine. J'aime l'idée qu'il parte en voyage, plutôt que de rester enfermé dans un de mes placards.
Jasmin, viens par ici, on va boire le café. M'appelait mon Opa Wolf. Il habitait à Burgdorf, en Basse-Saxe, dans une belle maison à colombage. Sa cuisine était la pièce de vie, le cœur de la maison, dit Stube. Cette belle cafetière, je l'ai héritée de lui. Il y avait bien sûr aussi quelques tasses à café et des coquetiers assortis, qui traînent encore quelque part dans ma cave. Les tasses à café ont fini par se faner, parce qu'elles sont malheureusement passées trop souvent au lave-vaisselle. Les assiettes aussi. Mais le décor de cette cafetière, lui, est resté dans sa couleur d'origine. Opa Wolf sentait toujours un peu le cigare, mais l'odeur du café parvenait à le recouvrir. J'avais une bonne relation avec lui. Il me faisait souvent asseoir sur ses genoux, tout en tenant ce fichu cigare à côté de moi. Même si je n'aimais pas vraiment ça, on s'entendait bien. Un jour, j'ai dû vomir sur la table de la cuisine parce qu'il voulait absolument que je mange des épinards. Quand j'étais petite, je détestais manger des épinards. Avec Opa Wolf, Il y avait cette sensation agréable d'être ensemble, simplement et naturellement. Lui avec son cigare, moi avec mes épinards. Et ce sentiment est resté. Cette cafetière avec ses petites fleurs vertes qui brillent encore aujourd'hui me rappelle un peu ces épinards. Et surtout, l'amour qui se transmet entre les générations, que l'on garde quelque part dans un coin de la tête et du cœur. Je suis très heureuse que cette cafetière prenne aujourd'hui une nouvelle vie chez toi, Barbara, et qu'elle devienne une belle présence, un hommage à la mémoire d'Opa Rouge.
Quand il sortait du tiroir, c'était la promesse d'un gâteau, et surtout le bonheur de lécher le bol de préparation, avec le doigt que l'on fait glisser sur le bord et que l'on lèche ensuite. Bonheur sous le regard complice de la mère. C'est pas bien, mais c'est bon. Oh, encore un peu.
C'est un souvenir de ma maison d'enfance qui fut heureuse jusqu'au 9 septembre 1939. Ce jour-là, alors que nous jouions dans le jardin, ma mère cria soudain « C'est la guerre !» Mon père fut mobilisé presque aussitôt. Au début, pour nous, les enfants, peu de choses changèrent. Puis vinrent les nuits d'obscurcissement, toutes les vitres recouvertes, les lampes de vélo réduites à une fente de lumière, et des badges lumineux épinglés sur nos manteaux pour ne pas se heurter dans l'obscurité. Mon père, débrouillard, avait trouvé une lampe de poche à dynamo. Je me souviens de ma communion en mai 1944. Un poêle allumé pour l'occasion, une fête familiale, et mon père présent en uniforme grâce à une permission. Mais la guerre se rapprochait, les denrées manquaient, les sirènes d'alerte retentissaient nuit et jour. Nous passions des heures dans la cave, dormant sur des caisses de fruits, un passage de secours percé vers le voisin, un marteau prêt à briser la cloison. Puis vinrent les bombardements massifs en octobre 1944. Beaucoup de mères partirent avec leurs enfants, mais la nôtre refusait d'abandonner la maison. Jusqu'au jour où deux SA frappèrent à la porte, exigeant un départ immédiat. Nous n'avions que le temps d'emporter des papiers, quelques vêtements et de prendre nos vélos. Ma mère, mon petit frère et moi roulions ainsi, ma sœur sur le porte-bagages, un bidon de lait accroché à mon guidon. Et cette lampe à pétrole qui nous accompagna. Fragile lumière dans l'obscurité de ces années.
C'est une assiette en céramique, au décor fondant, presque effacé. C'est une assiette à dessert, une des rares choses que j'ai pu sauver de la maison de mes parents. Là-bas, tout était humide, insalubre. Les meubles pourrissaient, rongés par le temps et l'eau. Et un jour, le vaisselier s'est effondré. Il a glissé le long du mur, mangé par l'humidité. La plupart des assiettes n'ont pas survécu. Alors celles qui sont restées intactes, je les ai gardées comme des survivantes. Aujourd'hui, quand ma vaisselle se casse, je la jette aussitôt. Parce qu'un objet cassé, pour moi, c'est le bruit du meuble qui tombe. Le souvenir de ce désastre. Et pourtant, celle-ci, je ne pouvais pas la jeter. Elle n'est pas encore tout à fait cassée. Il n'en reste presque plus. Et puis j'aime ce dessin, ce décor typiquement breton. Alors je l'ai gardé. Et maintenant, je te la donne. Parce que toi, tu peux lui donner une seconde vie. Elle n'est pas perdue, pas encore. Elle a encore une chance. Le vaisselier est tombé dans les années 80. Je n'étais plus là. C'est ma sœur qui m'a raconté. Mes parents vivaient à Saint-Paul-de-Léon, en Bretagne, au bord de la mer. Lors des grandes marées, l'eau entrait dans la maison. Le sol était en granit, une vieille maison avec un pignat noir. Beaucoup de cachets, mais insalubres. Pas de confort, une cheminée qui ne tirait pas, un vieux fourneau incapable de chauffer les chambres. Il faisait toujours froid, humide, humide, mouillé.
Je t'ai apporté la soupière de la famille. Il y en avait plusieurs, mais celle-là en particulier parce que c'est celle que j'ai toujours vue quand j'étais petite. je revois mon grand-père la sortir d'un placard sous l'escalier, qu'on appelle ici la boutigue. Cet endroit où l'on gardait les aliments au frais. Il était grand, un peu courbé, et il la manipulait avec beaucoup de délicatesse. À l'intérieur, il y avait un fromage qui nageait dans du vin blanc. Mais il ne sortait la soupière que lorsque, à la surface du vin, apparaissaient de petites traces blanches. C'était une tradition dans certaines familles. Le fromage, à l'origine, était très peu gras, très dur, presque immangeable, mais il se transformait au contact du vin blanc. Mon grand-père, on m'a dit que le jurançon n'était pas particulièrement utilisé ici, allait toujours chercher le sien chez le marchand de vin en bas d'Esther. J'étais la seule à partager avec lui ce moment, cette délicatesse lorsqu'il sortait le fromage. Ce souvenir est très doux. Mais il y en a un autre, peut-être encore plus marquant. Cette soupière appartenait à une famille humble, et elle ne sortait que pour les grandes occasions, les mariages, les enterrements ou les fêtes importantes. Il n'y en avait pas si souvent. On y servait alors le riz au lait traditionnel, apporté sur la table. La dernière fois que je l'ai vu, je n'avais pas 10 ans, c'était un 15 août. Il y avait du riz au lait. J'adore le riz au lait. À la fin du repas, mon père a annoncé à ses parents qu'il était muté en Algérie. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, mais pour mon grand-père, c'était comme un troisième épisode de guerre. Les larmes lui sont montées aux yeux. Ce souvenir m'est resté. 6 mois plus tard, mon grand-père a disparu. La soupière, je n'ai pas pu m'en séparer. Je l'ai laissée là. Elle est toujours au fond d'une limande. Ici, on appelle ainsi un buffet très simple. Elle est poussée tout au fond et je ne l'ai jamais donnée, ni vendue, ni jetée. Quand j'ai découvert ton travail, cette exposition, cette manière de créer des liens avec la paysannerie et la nature, quelque chose s'est déplacé. Je me suis souvenu de mon grand-père, de son jardin, à côté de la maison, à Esther. Il y faisait pousser des légumes magnifiques. Il m'expliquait que la terre était riche parce qu'elle contenait du limon. Ce limon venait du Bastan, le torrent, qui, avant 1900, avait débordé et recouvert la route, laissant derrière lui ce dépôt fertile. Mon grand-père se servait des bouses de la seule vache de ma grand-mère. Et grâce à cela, il obtenait des légumes magnifiques. Alors tout est devenu évident. Elle devait changer de forme. Je te la remets pour qu'elle prenne vie entre tes mains, qu'elle devienne l'œuvre d'art que je rêve qu'elle soit. Merci.
Quand nous partions en vacances, notre mère avait une habitude bien à elle. Cacher les objets de valeur, bijoux, argenterie, souvenirs précieux. Mais au retour, il manquait souvent quelque chose. Elle oubliait ses cachettes. Pendant plus de 20 ans, elle a cherché les couverts en argent reçus pour son mariage. Elle a fouillé la cave, les combles, derrière les armoires, rien. Elle nous disait souvent « Ne vendez jamais la maison avant d'avoir retrouvé les couverts en argent. » L'an dernier, notre mère est décédée. Nous avons fini par prendre la décision de vendre la maison. En la vidant, ses mots nous revenaient. Mais toujours aucun couvert à l'horizon. Ce n'est qu'au moment de vider la cave à vin que nous les avons retrouvés, rangés dans une caisse en bois, soigneusement emballée. Nous avons dû nous séparer de beaucoup d'objets. Les fameux couverts auraient pu en faire partie. Mais lorsqu'un antiquaire est venu les expertiser, il en a estimé la valeur à 15 euros. Notre mère, elle, croyait détenir un trésor. Alors, au lieu de les vendre, nous avons choisi de les garder, qu'ils trouvent enfin leur place au cœur du banquet, et sortent de l'ombre où ils étaient restés pendant toutes ces années.